BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h, passé d'une minute, on entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine et on file tout de suite sur le marché, retrouver Frédéric Rosier qui nous attend chez Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Bon, est-ce qu'on va réussir à tenir les 6000? Bah, pour le moment, ça n'est plus le cas. Est-ce qu'on va réussir à tenir la hausse? Bah, pour le moment, c'est presque plus le cas.
Oui, on est quasiment à l'équilibre avec toujours ces rotations sectorielles. On voit par exemple aujourd'hui la plus forte hausse du marché parisien, c'est Unibail qui était la plus forte baisse hier. D'ailleurs, les trois valeurs en forte hausse aujourd'hui, c'était les trois plus fortes baisses d'hier. Donc, vous voyez, on tourne un peu sur nous-mêmes hein, quelque part, au gré notamment de l'évolution des taux d'intérêt, des taux longs hein, qui ont tendance à remonter un petit peu ces derniers temps. Et donc, on a cette rotation sectorielle relativement importante sur le marché, tout en tournant autour du point pivot de 6000 points sur le CAC.
Voilà donc quelques idées à avoir sur cette séance du jour, en tout cas sur le début de séance. Bon, du côté des boîtes, on n'a pas énormément de choses. Il faut aller chercher notamment à l'étranger pour faire du reader cross, comme on dit.
Exactement. Alors vous voyez aujourd'hui, dans un contexte plutôt favorable sur le pétrole, après la décision de l'OPEP+, de réduire de 2 millions de barils, Total dans le rouge. Alors pourquoi Total est dans le rouge? Tout simplement parce que Shell nous avertit parce que effectivement il y a une pression sur les marges de raffinage notamment. On l'oublie hein, trop souvent, mais ce qui a fait quelque part une bonne partie du résultat Total, c'est la multiplication par 5 de ces marges de raffinage. Lorsque le brut monte, l'entreprise gagne plus d'argent hein, sur cette partie d'activité. Et on voit hein, depuis quelques temps, le Brent notamment a baissé quand même considérablement, plus de $30. Et c'est un impact sur le résultat. On le sait en plus, hein, Total a tendance à faire des ristournes à la pompe depuis quelques temps. Donc, vigilance quand même, hein, les résultats vont être bons. Maintenant, Shell nous rappelle qu'il y a quelques vents contraires sur cette industrie, malgré un baril qui reste quand même sur des niveaux relativement élevés.
Du coup, comment est-ce qu'on doit se positionner un petit peu sur cette thématique?
Alors, c'est très complexe parce que en termes de rentabilité, il est évident que Total aujourd'hui est peut-être la société la mieux disante hein, du ouais. marché. On attend une forte progression de ses résultats. Mais attention, hein, l'OPEP+ intervient parce qu'il y a des risques de récession. Ce risque de récession veut dire demande de brut qui diminue. Donc on a des vents un peu qui s'opposent aujourd'hui sur cette industrie et Shell qui baisse de 4% après cette annonce nous le rappelle. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention quand même à la publication de résultats qui aura lieu le 27 du mois.
On va se tourner maintenant vers les boîtes quoi pour en savoir plus.
Oui, les attentes, c'est peut-être le gros danger. On va commencer la semaine prochaine notamment avec LVMH qui attend une croissance organique de 13%, en tout cas le marché attend une croissance organique de plus de 13%. Globalement sur le stock 600, c'est 30% de hausse des bénéfices par action sur le trimestre. Donc on voit quand même que les attentes sont très très élevées. Les États-Unis nous l'indiquent hein, depuis le début de la saison de résultats. On peut avoir des grandes divergences, donc attention à cette période qui va être peut-être une zone à risque.
Merci beaucoup Frédéric Rosier Mirabeau qui nous accompagnait ce matin. Tout de suite, l'Info Éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, la France passera l'hiver en matière d'énergie, même dans les pires scénarios, et les prix vont revenir à des niveaux raisonnables. Déclaration d'Emmanuel Macron ce matin lors d'un événement organisé par BPI. Cet après-midi, le gouvernement présente son plan de sobriété énergétique. Objectif, réduire de 10% la consommation d'énergie du pays et éviter les coupures de gaz et d'électricité. Parmi les mesures qui vont être annoncées, le télétravail, le covoiturage ou encore des coupures d'eau chaude dans les administrations. Bercy va recruter un négociateur pour aider les entreprises à signer leur contrat d'énergie. Il ciblera ses efforts sur les PME, très énergivores, qui rencontrent des difficultés au moment de renouveler leur contrat. L'alerte de Thierry Breton sur les conséquences de la flambée des prix de l'énergie pour les industriels. Certains d'entre eux sont très affectés par l'inflation. Le commissaire européen au marché intérieur appelle donc les États à se coordonner pour les soutenir. Il était l'invité de BFM TV et RMC ce matin.
J'appelle chacun des États à faire ce qu'il faut pour aider les secteurs industriels. On a beaucoup de secteurs industriels qui sont très dépendants de l'énergie. On peut penser à l'acier, on peut penser au zinc, on peut penser au papier, on peut penser à la chimie, on peut penser au verre, et donc qui sont très affectés. Et c'est très important parce que, évidemment, ça affaiblit notre compétitivité. Et au fond, certaines de ces entreprises vont peut-être être tentées, eh bien, d'aller produire non plus en Europe, mais ailleurs. Donc, depuis des mois, nous alertons sur ce point. Les États membres, ils réagissent, c'est bien. Mais il faut le faire, évidemment, et c'est votre point, de façon coordonnée. Car le marché intérieur, c'est ce dont je suis responsable, eh bien, il fonctionne parce que nous avons des règles à peu près similaires partout.
Après la renationalisation d'EDF hier, la filiale italienne de l'énergéticien serait-elle à vendre? C'est en tout cas ce que croit savoir Reuters. EDF pourrait décider de céder Edison, qui produit et distribue de l'électricité. Une opération qui pourrait se chiffrer à 8 milliards d'euros. On en vient à cette évolution dans le droit du travail. Désormais, les salariés qui abandonnent leur poste seront présumés démissionnaires. Donc leur accès à l'assurance chômage sera limité. L'Assemblée nationale a voté des amendements en ce sens hier, amendements présentés par la majorité et LR. En Allemagne, les commandes à l'industrie chutent plus que prévu. En août, elles reculent de 2,4% sur un mois, contre une baisse de 0,7% initialement anticipée. Après S&P, l'agence Fitch abaisse la perspective de la note du Royaume-Uni. Elle passe de stable à négative. Pour l'agence de notation, les importantes baisses d'impôts annoncées par le gouvernement britannique pourraient entraîner une hausse significative des déficits budgétaires à moyen terme. Et puis c'est la naissance aujourd'hui de la communauté politique européenne, la CPE, traduction concrète d'une idée lancée par Emmanuel Macron en mai. Elle rassemble les 27 pays membres de l'Union européenne ainsi que 17 pays limitrophes. Tous se réunissent à Prague pour échanger sur l'énergie, le climat ou encore la sécurité. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot qui nous accompagne chaque heure pour suivre cette information économique. Le marché parisien, lui, grignote très modestement 0,04%.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Bastien Rapoport et Marc Reyes sont en plateau. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Bastien pour Montpensier Finance, Marc pour Vega IM. Comment est-ce qu'il faut aborder cette tendance, ces 6000 points, ces doutes, et puis soudain ces espoirs, et puis ces redoutes, enfin.
C'est ça. En fait, on a un marché qui est totalement focalisé sur ce qu'il imagine que la Fed va faire l'année prochaine. Il a un peu fait son deuil des hausses de taux de 2022, ça je crois que tout le monde est raccord là-dessus. Et donc maintenant, il guette le moindre espoir, le moindre signe que finalement, 2023, elle pourra commencer à rebaisser ses taux dans le courant de l'année. Alors, on a vu qu'elle avait un petit espoir lundi quand le chiffre de l'ISM manufacturier américain a baissé. Et puis là, effectivement, hier, ça a été un peu la douche froide parce que le secteur des services, qui est quand même beaucoup plus important que l'industrie aux États-Unis, lui, se porte pas si mal que ça. Un ISM des services à 56,7, c'est... Ouais. C'est quand même le signal d'une expansion encore soutenue. Maintenant, il attend avec fébrilité, évidemment, les créations d'emplois qui vont tomber demain.
Tout va en partie se jouer demain après-midi.
Oui, parce qu'en fait, les créations d'emplois, c'est quand même l'indicateur le plus avancé de ce que vont être les prix à la consommation un peu plus tard, puisque s'ils ont un peu plus de mal à retrouver du boulot, les Américains consomment un peu moins. Et donc c'est ça qui est un peu le fait générateur, si vous voulez, de toute la chaîne derrière, prix à la, volume de la consommation, prix à la consommation, etc. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont un peu commencé à renoncer à acheter des biens matériels, mais que par contre, ils n'ont pas encore renoncé à sortir et à dépenser dans les services. Donc le message est pas encore passé. Alors, il y a un élément favorable quand même. Pour le marché, c'est qu'il y avait 11,5 millions de postes disponibles non pourvus aux États-Unis, la fameuse enquête JOLTS, et il n'y en a plus que 10,5 millions, donc 1 million de postes en moins offerts. Et ça, on peut espérer que c'est le premier signal de l'efficacité des mesures de la Fed.
Bastien, votre sentiment, vous, sur cette...
Marc a très bien résumé. Quand on est dans une période d'incertitude, incertitude à la fois sur la dynamique de l'économie, à la fois sur le moment où les banques centrales la Fed, mais aussi la Banque Centrale Européenne, aura fini sa période de resserrement monétaire, donc de retrait de liquidités et d'argent sur les marchés. Le marché se focalise toujours, on a déjà connu ça ces dernières années, sur ce qui semble être des micro-événements. Parce qu'il essaie d'avoir des indications à chaque fois qu'on a des statistiques macroéconomiques qui sont publiées, que le marché sait être scruté très attentivement par les décideurs monétaires, surréagit pour anticiper ces mouvements. Simplement, ça entraîne dans des schémas de volatilité qui sont très très forts sur finalement des données qui doivent être interprétées sur des tendances de longue période. Donc, on surréagit sur les marchés, il y a beaucoup de volatilité, on a aussi beaucoup baissé sur les marchés. Donc, on est 30 à 35% plus bas sur les marchés américains, enfin en tout cas sur le Nasdaq, un peu moins sur le S&P. On est aussi dans une correction qui tourne autour de 20% sur les marchés européens. Il y a des liquidités dans les fonds, donc c'est pas anormal qu'il y ait un moment, quand on a un petit peu d'espoir, des rebonds assez forts, et surtout sur des valeurs qui ont été très très fortement attaquées. On parlait de ce qui tenait à peu près aujourd'hui, c'est des valeurs qui ont perdu 40, 50, oui. 60% ces 6 derniers mois. Donc, la dynamique, aujourd'hui, elle a créé de la volatilité sur des surréactions, sur des statistiques macroéconomiques. Le juge de paix, ça va être la saison de résultats qui arrive et qui va enfin donner, on l'espère, des perspectives chiffrées et non pas uniquement qualitatives sur ce qu'anticipent les entreprises sur l'année 2023. Et c'est là où on pourra vraiment savoir quel secteur, quelle thématique, quelle valeur sont intéressantes au prix d'aujourd'hui pour jouer 2023 sur le marché.
N'empêche qu'il y a eu quelques mouvements là qui ont interpellé sur les marchés et qui probablement vont avoir des conséquences ou en tout cas devraient demander à certains acteurs de tirer des leçons. Comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé sur le marché obligataire notamment ces derniers jours ? On peut pas quand même tout expliquer par entre guillemets le simple cas spécifique du Royaume-Uni ici ?
Ça a pas aidé.
Oui, non, on est d'accord. Mais...
Bon, parce que ça a montré que bah, les marchés, quand même, regardaient la crédibilité du discours des États. C'était plutôt rassurant, d'ailleurs, que ce soit le cas, parce que il faudrait pas non plus que tout le monde pense qu'il peut émettre de la dette sans fin et faire du déficit sans fin sans que ça ait de conséquences. Mais non, effectivement, les marchés obligataires, là, ils sont vraiment à un niveau où c'est compliqué pour eux, quoi. C'est compliqué pour eux parce que ils voient que les banques centrales vont continuer à monter les taux courts. Donc de ce côté-là, la partie courte de la courbe a de bonnes chances de continuer à se tendre dans les mois qui viennent.
Bien sûr.
Et à côté de ça, eux sont pris par la perspective de ce ralentissement économique, de cette récession sur la partie longue. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est pas simple pour un... Quand on gère des obligations longues, c'est compliqué de privilégier soit une tension supplémentaire encore parce que on sait que les taux courts vont monter, et d'un autre côté, des nouvelles qui pourraient... Là, ce qui nous semble, mais une fois de plus, hein, c'est interprétatif, c'est que un 10 ans américain, qui est quand même l'obligation, hein, Cédric, la plus regardée, la plus directrice du truc... Quand elle arrive vers 4%, c'est quand même un niveau déjà pas mal sur 10 ans. Okay. Et on a l'impression que, sans être un pic nécessairement, en fonction de ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent, mais on a l'impression que vers 4%, quand même, ça y est, ça rémunère quand même bien le risque pris par les investisseurs sur 10 ans. Et donc, on a un peu l'impression quand même que arriver à ce niveau-là, ça va pas aller infiniment plus loin tout de suite. Quoi. Et je comprends que ça puisse donner envie d'y retourner sur ces niveaux-là. C'est ce qui s'est passé en début de semaine.
Et comment vous le regardez, vous, cette espèce de tension qu'il y a eu ?
Il faut bien savoir que les stocks d'obligations d'État sont les actifs sans risque qui sont massivement détenus dans les fonds de pension, chez les assureurs, qui ont des contraintes de volatilité. C'est-à-dire que dès que la volatilité monte à des niveaux trop élevés, leurs fonds propres sont considérés techniquement en danger. Ce qui veut dire que si on restait sur ces niveaux de volatilité et sur cette hausse des taux sur les emprunts longs au UK, on risquait d'avoir des problèmes avec les systèmes de risque d'un certain nombre de gros assureurs qui auraient dû faire des liquidations massives pour réduire la volatilité de leur portefeuille. Donc c'est totalement pro-cyclique dans la lecture de ce qui s'est passé. Donc ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés d'intervenir pour calmer les choses. Ils finissent les achats à la fin de la semaine prochaine. On va voir s'ils ont réussi à calmer complètement la tendance. On sait quand même que les interventions des banques centrales, très souvent, que ce soit sur les achats de taux, quand ils sont limités dans le temps, ou les interventions sur les devises, ça ne renverse pas les tendances de marché. Quand la tendance macro est mauvaise sur la zone qui est concernée, c'est souvent un coup d'épée dans l'eau.
Mais il y a un problème spécifique au Royaume-Uni, ou alors est-ce que les banques centrales, dans leur ensemble, vont être obligées de se nourrir de cet épisode-là pour en tirer des enseignements?
Moi, ma crainte, c'est que cet exemple britannique ne puisse faire tache d'huile en zone euro. Parce que effectivement, là, il y avait, et Bastien l'a très bien dit, des problèmes spécifiques liés à la dette à 50 ans, aux assureurs, à l'extrême sensibilité de la dette très longue de l'État britannique pour ses compagnies. Donc ça, effectivement, c'est un problème technique qui est venu surajouter, qui a obligé à cette intervention. Mais on peut imaginer que demain, la dette italienne soit chahutée et impose à la BCE d'intervenir pour éviter un dérapage trop massif. C'est sûr qu'on est quand même dans une zone, quand vous avez des taux comme ça qui sont passés en zone euro de moins 0,50 à plus 2 sur la dette allemande en si peu de temps, on voit bien que voilà, c'est ce qui est arrivé en Grande-Bretagne, ça peut arriver dans un pays fragile de la zone euro dans quelques semaines. On n'est pas à l'abri de ça. Et c'est vrai que pour la Banque centrale, arriver à dire à la fois qu'elle lutte contre l'inflation, mais qu'elle augmente la taille de son bilan en achetant de la dette d'État, c'est pas un super message à envoyer.
Il y a des enseignements, vous, à tirer ?
En fait, ce qui est très important, ce qui a été très dramatique dans cette situation, c'est la vélocité, c'est-à-dire la rapidité à laquelle les taux se sont envolés. Mais c'est la même chose sur les entreprises. En un an, une entreprise de qualité investment grade en Europe ou aux États-Unis, le coût de sa dette a été multiplié par 2,5 à 3. Une entreprise d'un peu moins bonne qualité, sur le high yield, le coût a été multiplié entre 3 et 4 sur 5 ans. Sur les États, comme vient de dire Marc, puisqu'on était négatif, c'est
pas
fini, mais c'est-à-dire que le coût et les valeurs au bilan qui baissent ont un impact réel sur les équilibres monétaires, à la fois au niveau des bilans des entreprises et des banques centrales. Donc, à un moment ou à un autre, de toute façon, les banques centrales ne pourront pas retirer totalement le tapis de soutien sur les emprunts d'État.
Après, il y a quand même un sujet, c'est qu'il faut que les politiques arrêtent la démagogie. Parce que si vous voulez, on ne peut pas dire on veut lutter contre l'inflation et faire des plans de relance budgétaire côté de ça, massifs.
À tout va.
C'est complètement incohérent. À la fois, effectivement, parce qu'ils seront compliqués à financer par les marchés, ça c'est le point de vue technique, mais même du point de vue cohérence, avoir une politique budgétaire restrictive, une expansionniste quand on a une politique monétaire restrictive, ça n'a pas de sens.
Mais n'empêche que cette Banque Centrale Européenne que vous évoquiez, elle se retrouve quand même un peu pieds et poings liés par le rythme, la cadence imposée par la Fed. Parce qu'elle pourrait choisir de faire cavalier seul, mais à ce moment-là, l'euro
plongerait de manière... Il a déjà pas mal plongé, il perd 14% par rapport au dollar depuis le début de l'année. Si Mme Lagarde était restée sur le discours qu'elle tenait en début d'année, je fais rien, etc.
Quand vous entendez Olly Rehn dire il faut maintenir la cadence, 50, 75 ou autre chose, c'est pas 25, c'est 100.
C'est ça. Oui, de toute façon, on voit bien que là, elle est qu'à 1,50, Mme Lagarde, pour l'instant. Donc elle a encore du chemin à faire et elle ne pourra pas s'abstenir de le faire.
Le taux terminal, il ne peut pas être le même aux États-Unis qu'en Europe.
Il peut être entre 2,5 et 3. Il peut être entre 2,5 et 3.
Pardon, Bastien.
La vélocité qui reste pour les 6 mois va être la même.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va avoir entre 125 et 150 BP de hausse des taux pour la BCE d'ici la première réunion de 2023.
Et donc, c'est la récession assurée.
Et après... Si la BCE arrive à stabiliser sur l'euro, ça réduira l'inflation importée. Le problème, c'est que plus l'euro baisse, comme on est très importateur, en tout cas en particulier sur l'énergie, on a énormément d'inflation importée à cause de la baisse de l'euro.
C'est la récession assez certaine quand même. Aujourd'hui, la question, c'est presque plus tellement est-ce qu'on va avoir une récession, mais de quelle ampleur et de quelle durée, quoi.
Bon, C'est pas forcément très réjouissant. Oh, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans nos portefeuilles? On se gave de valeurs défensives, on joue du taux sur du portage, comment on fait?
Sur le portage, on commence à redevenir dans un environnement qui est assez attractif sur le crédit d'entreprise. C'est-à-dire que quand on a du high yield qui commence à rapporter 9 à 10% sur les catégories pas trop mauvaises du high yield, l'investment grade qui commence maintenant 6. À s'approcher des 5, voire 6 aux États-Unis, on commence à avoir un risque qui est de nouveau un petit peu payé. Est-ce qu'il faut se précipiter pour reprendre? Il vaut mieux peut-être attendre que les choses se soient stabilisées. On a peut-être encore un peu de volatilité dans les un trimestre et demi qui viennent devant nous. Donc, pas forcément tout feu, tout flamme tout de suite.
Bon.
Vous voudriez
faire quoi? Vous gavez de défensive?
On a été sous-pondéré jusqu'à la semaine dernière sur les actions. Là, on a racheté un peu en fin de semaine dernière en se disant, bon, ça a beaucoup baissé, c'est très survendu. Il y a un petit rebond pour l'instant, on ne sera pas très gourmand. Je pense que si le marché prend encore 100 points... sur des niveaux de 6150.
Mais vous réfléchissez comment avec négatif. Du stock picking en allant choisir vraiment
alors,
un dossier
voilà,
pour un dossier
alors déjà,
ou vous prenez des défensives ou vous prenez des value voilà.
On raisonne déjà par le haut, c'est-à-dire de se dire voilà, à quel moment on pense que le marché a déjà trop vendu, trop baissé et qu'il faut rentrer. Après effectivement la deuxième question c'est si on décide de racheter un peu, c'est qu'est-ce qu'on achète? Et là c'est vrai que c'est de se dire on a tendance à racheter ce qui a été assez massacré dans la baisse et qui est arrivé à des niveaux de valo plus sympas. On a trouvé, par exemple, la semaine dernière, du Schneider à 113, ça venait de 180 un an plus tôt. Voilà, on pense aussi aux valeurs du luxe qui ont quand même beaucoup souffert de ces mouvements. Donc, l'idée, voilà, c'est quand on veut revenir sur le marché, c'est de revenir sur des secteurs qui sont assez cycliques et qui ont baissé. On ne peut pas jouer le rebond par le défensif, parce que le défensif, par nature, c'est plutôt les valeurs qu'on a quand on est pessimiste et qu'on se dit elles baisseront moins que les autres valeurs. Les moments où on veut jouer des rebonds, c'est sur de la tech, sur du luxe, voilà.
Et du coup, comment vous sentez la fin de l'année là? Je vais pas vous demander le niveau du CAC au 31 décembre à 13h quand il fermera, mais comment est-ce que vous sentez cette dernière partie de l'année avec un CAC qui est grosso modo à moins 12, moins 13
Si on raisonne à 6 mois, je sais pas sur le 31 décembre, mais vraisemblablement on peut avoir un marché qui est un peu plus fragile à un moment entre maintenant et janvier-février, et un redémarrage aujourd'hui. Quand on achète avec une perspective d'investissement supérieure à un an et demi ou deux ans, acheter aujourd'hui un certain nombre de thématiques qui sont des thématiques qui devraient être capables de tenir s'il y a une tempête et de repartir et de rebondir à horizon un an et demi, deux ans, on ne fait pas une erreur, sachant qu'on se donne la possibilité de monter encore nos positions si les marchés sont plus bas. C'est le cas sur des thématiques sur l'environnement, sur le luxe dont parlent les marques, sur le sport, le loisir. C'est aussi le cas sur la santé qui est défensif mais qui pourrait aussi repartir. Donc on a un certain nombre de thématiques sur lesquelles on se dit, même si on est un peu plus bas sur les marchés à la fin de l'année, on ne fait pas une erreur massive en investissement aujourd'hui dans nos stratégies d'investissement qui ne sont pas à 2 mois ou à 3 mois. Elles sont plus longues sur notre gestion de portefeuille.
Si on regarde un peu l'indice CAC, on voit quand même que cette année, il a rebondi à 3 reprises sur les niveaux de 5008.
D'accord.
Déjà, début mars, quand il y a eu le déclenchement des hostilités en Ukraine, puis fin juin, quand on s'est aperçu que la guerre allait durer, s'aggraver, que les banques centrales remontaient, etc. Puis là, récemment encore, la semaine dernière, quand il y a eu cette...
Donc finalement, vous dites, ça va pas être glorieux, mais 5008
voilà, on a
joue
le sens,
une
voilà.
espèce de plancher
c'est
d'assurance.
C'est un peu ça, Cédric, c'est-à-dire qu'on se dit, ça a rebondi 3 fois sur ces niveaux-là, ça commence à constituer un bon support pour les marchés d'action. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas sur vraiment... une dégradation, une montée géostratégique, un Poutine qui s'énerve vraiment, etc. Donc on est à l'abri de rien. Mais hors cas de où ça dégénère vraiment, on a l'impression qu'on a trouvé quand même des points à peu près d'achat. Et c'est pareil sur l'allocation sectorielle.
on a l'impression que quand on est sur ces niveaux-là, les belles valeurs qui ont vraiment énormément souffert sont quand même revenues sur des niveaux jouables sur le moyen terme. Donc voilà un peu le sentiment que ça nous donne, même si effectivement, et je suis d'accord avec Bastien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de souffrir pour les semaines qui viennent. On pourrait avoir une sorte de courbangie, vous voyez, sur cette fin d'année.
Là, vous revenez avec l'alphabet.
Voilà.
Eh ben, on va réviser les lettres et leurs formes. Bastien Rapoport, Montpensier, Marc Ries pour Vega IM. Merci à tous les deux d'avoir été là ce matin pour Regard Croisé, le marché parisien. On le dit, il hésite, hein, plus 0,02% en ce moment, 5986 points. Qu'en dire graphiquement? C'est Jean-Louis Cussac qui ausculte tout ça dans un instant. Vous n'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur notre site ou sur vos plateformes préférées afin de nous retrouver à tout moment. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, on file sur le marché pour entamer cette dernière demi-heure, histoire de prendre le pouls de cette séance qu'on croyait presque assurée en début de journée. On était bien au perché, au-dessus des 6000 points, et puis ça s'est dégonflé, Jean-Louis, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, non, mais il n'y a rien, Cédric. Là, c'est vraiment mort. Hein. Depuis tout à l'heure, là, depuis une heure, on a perdu 0,2. On vient de les récupérer. Donc, on est revenu au niveau de 10h30. Donc, oui, en repli. Alors, on a fait une ouverture extrêmement forte à la hausse. Alors, c'est pour ça que ça peut perturber un peu. Mais c'était vraiment avant 9h. Donc, dès que le 9h, avec l'ouverture des actions, est arrivé, ben voilà, le marché était vers 6000. Et puis là, il vaut 5980. 8,90, vous voyez, donc bon, pas vraiment de changement. Et les volumes, tout à l'heure on était à 370 millions et là on est à 480 millions. Il n'y a pas de gros écart sur les valeurs du CAC. Bon, il faut quand même regarder un peu dézoomé, c'est-à-dire qu'on a fait 8% de hausse depuis lundi matin 2h sur l'Eurostox, hein. Donc c'est normal que 2h du matin, quand il a ouvert, il est parti à la baisse. Et donc on peut faire une pause, on voit pas, si vous voulez, le catalyseur positif qui nous permettrait d'imaginer un moteur, un relais. Donc les marchés actions restent hypersensibles à l'évolution des taux souverains, ça ne change pas, et il n'y a rien d'autre dans le pipeline. Alors, vous entendez parler de la fin d'année, mais j'avais envie de vous dire, justement, on peut espérer qu'avant la fin de l'année, on puisse réagir sur un vrai positif. Et le vrai positif, ça serait par exemple l'arrêt de la guerre en Ukraine. Mais pourquoi pas ? Des spécialistes disent qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Donc, c'est ça le principal espoir potentiel du marché, parce que là, on peut gagner très facilement 10% sans retour en arrière. Donc, en fait, la réponse, elle est très binaire. C'est du côté des taux, on sait que ça va être compliqué, qu'on peut s'attendre à des anticipations, à des moments favorables et à des moments un peu de déprime. Mais par contre, la guerre en Ukraine, c'est quelque chose vraiment, c'est oui ou non, quoi. Donc là, de ce côté-là, c'est là qu'il faut regarder. Et à un moment donné, l'espoir peut venir de là. Donc les marchés attendent, en attendant les statistiques aux États-Unis, voir si les banques centrales peuvent redevenir accommodantes, etc., etc. Mais enfin moins restrictives, pardon. Mais bon, voilà, il y a quand même beaucoup de chemin. Moi, je continue, si vous voulez, à faire des écarts dans cette zone neutre, 5920, 5160, mais je garde quand même au fond de moi un biais baissier, parce que quand on a des actifs en bourse comme les actions, eh bien il vaut mieux les protéger, mais c'est vrai que sur le côté spéculatif intraday, ben, on attaque dans les deux sens. Sur le moyen long terme, on a un petit biais vendeur, mais surtout on vend de la volatilité implicite. Vous vous rendez compte, cette volatilité, elle est à 24-25, là la 24,7, c'est beaucoup, c'est vraiment des marchés qui sont hyper méfiants. Et on se demande ce qui pourrait les amener à douter fortement, à les prendre par surprise, parce que comme le montrent les commentaires des différents gérants, vous voyez, tout le monde est parfaitement conscient des enjeux, des risques, et ne se fait pas d'illusions. Et il n'y a aucune complaisance sur ces marchés.
Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, avec nous régulièrement au quotidien pour lire ces marchés. Le CAC 40, lui, bah, grignote 0,08%, 5 990 points. La tendance européenne est à peu près dans les mêmes eaux, hein, plus 0,1% pour l'Eurostox 50. Du côté des devises, on est à 99,87. Et le pétrole, le Brent de la mer du Nord, 93,80.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
Et on accueille Pascal Bossan, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour Bossan Conseil, ce matin vous nous proposez d'agir pour le climat avec notre épargne. Le premier poste d'émission de CO2 d'un Français est constitué par son épargne.
Oui, et c'est un sujet encore trop méconnu, Cédric, ouais. En fait. Effectivement, alors... Ça fonctionne de manière indirecte parce que les banques traditionnelles françaises financent avec notre épargne sur nos comptes courants, eh bien, encore de manière massive des projets d'extraction pétrolière et pas forcément très, très clean puisque ce sont des projets qui peuvent être en Arctique ou du pétrole ou du gaz de schiste, par exemple. En fait, on estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un ménage français s'élève à 16 tonnes de CO2 par an. C'est absolument considérable. La bonne nouvelle, Cédric, c'est qu'on peut quand même facilement décarboner son épargne.
Alors, on s'appuie pour discuter ce matin sur votre dernier ouvrage, Agir pour le climat avec son épargne. C'est sorti aux éditions EMS, Enquête. Quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette enquête ?
Oui, j'ai travaillé sur ce sujet pendant plusieurs mois et je précise que c'est un projet de partage puisque je donne la totalité de mes droits d'auteur à l'association 1% pour la planète. En fait, j'ai tiré deux grands enseignements de cette enquête. Le premier enseignement, c'est que les solutions finalement sont bien plus nombreuses que l'on ne l'imagine. Et le deuxième enseignement, c'est que quand même le monde de la finance est en train de se réinventer. Il y a de plus en plus d'innovations, de solutions réellement engagées qui existent. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant.
Alors, on débute par le compte courant. Et vous nous dites... Le choix de la banque a une énorme importance, c'est-à-dire ?
Oui, en fait, on estime que 3 000 euros déposés pendant un an sur un compte courant d'une grande banque française classique est l'équivalent en termes d'empreinte carbone d'un vol Paris-New York. Donc, c'est tout à fait considérable. Alors, les solutions ne sont pas si simples parce qu'il est difficile de trouver aujourd'hui des offres bancaires réellement vertes et complètes. Mais on peut facilement franchir une première étape en commençant à alléger ses avoirs auprès de sa banque classique pour encourager d'autres projets. Il y a par exemple le Crédit Coopératif, qui est une banque éthique et verte qui existe depuis longtemps. Puis il y a des nouveaux acteurs comme Helios, par exemple, auxquels on peut tout à fait s'intéresser.
Alors, vous parlez également, puisqu'on est au cœur de l'épargne, d'un autre produit que les épargnants français adorent, c'est l'assurance vie. Comment identifier les bons élèves en termes de climat, justement ?
Alors, les contrats d'assurance vie sont plébiscités par les épargnants français depuis des décennies, à juste titre. Et c'est vrai que les assureurs sont bien sûr en première ligne. Ils sont confrontés au risque climat, notamment pour les habitations, évidemment, par exemple. Donc, les assureurs commencent à s'engager sur ce sujet du climat de manière importante. Il y a, par exemple, le Crédit Mutuel Arkéa, avec ses filiales Assurance sur Avenir, qui font partie des assureurs les plus engagés. Mais évidemment, ce qui compte surtout, c'est ce qu'on met à l'intérieur de son contrat d'assurance vie. Et on va en parler. Et
dans les contrats, on le sait, on met des unités de compte, des produits, des fonds. Comment on trouve, sans non plus être obligé de faire des études ultra poussées, comment est-ce qu'on déniche un moyen facile de sélectionner un fonds qui agit pour le climat et du coup remplir son contrat d'assurance vie?
Alors, il y a évidemment beaucoup de solutions.
Il y a des labels, il y a tout ça.
Oui, alors je vais vous donner une idée simple et lisible, c'est de s'intéresser au label Greenfin. C'est un label vert foncé, les énergies fossiles sont exclus de ce label et il n'y a que des éco-activités dans ce label. Alors effectivement, il y a peu de fonds dans ce label. Néanmoins, il y en a quand même de plus en plus. Je vous donne trois exemples. Le fonds Mandarine Global Transition, qui est aussi adhérent du 1% pour la planète, donc qui s'engage avec du mécénat. Le fonds Sycomore Éco-Solution, qui a été le premier fonds labellisé Greenfin. Et troisième exemple, le fonds Ecofi Agir pour le climat. Donc trois idées claires pour ne pas se tromper.
Alors, on a parlé du compte courant, ça concerne tout le monde, de l'assurance vie, ça concerne beaucoup de monde. L'autre grand affiche de l'épargne française, c'est l'immobilier. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'immobilier? Parce qu'on brocarde souvent l'immobilier sur ce côté environnement.
Oui, en fait, l'immobilier, en moyenne, représente 55% du patrimoine des ménages français. Donc, s'intéresser à ces sujets climatiques, bien sûr, on a l'immobilier qui va être forcément un passage obligé de ce sujet-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'aides hein, maintenant pour rénover son logement ou ses biens locatifs, consommer moins d'énergie. Il y a aussi de nombreuses solutions pour investir dans des solutions immobilières décarbonées. On aura l'occasion d'en reparler ensemble, Cédric.
Allez, on termine avec d'autres solutions de diversification qui peuvent nous intéresser. On en a déjà souvent parlé ensemble. Il y a la forêt, il y a les terres agricoles. Enfin, ce sont de vraies solutions aussi.
Oui, absolument. Alors, ce sont des solutions qui viennent en diversification du patrimoine, des solutions plus classiques dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui me semble intéressant, c'est que j'ai voulu dresser un panorama large, en fait, de toutes les solutions qui existent. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des solutions très accessibles. Ce sont des solutions qui ne sont pas réservées à une élite, ce sont des solutions qui sont accessibles par le grand public avec des montants relativement faibles. Donc le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que chaque épargnant peut réellement agir à son niveau.
Ça s'appelle Agir pour le climat avec son épargne. C'est signé Pascal Bossan qui nous accompagne régulièrement et ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. EMS. Donc, pour la maison d'édition. Merci Pascal.
Merci Cédric.
À très bientôt. Le CAC 40 qui perd du terrain, il ne vous suit pas, il est dans le rouge, le CAC, il n'est pas dans le vert pour aujourd'hui. Bon, elle était nulle cette blague. Moins 0,09, 5980 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
On a le droit de faire des blagues nulles de temps en temps, Jean-François.
Bien sûr.
Bon. Jean-François Filiatre et Marché Gagnant qui nous accompagnent comme chaque semaine pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr et ça fait de la matière pour Jean-François. Thierry, enfin et les autres d'ailleurs, Thierry vous interroge suite au krach boursier que l'on subit. Quelles sont les valeurs à mettre sous surveillance et à racheter en cas de capitulation des marchés? Les mots sont forts chez Thierry. On peut vraiment dire krach là?
Alors, moi, je vais être très honnête. Si on doit aujourd'hui parler de crack, me semble-t-il, il faut beaucoup plus parler de crack du côté des obligations que du côté des actions. Parce qu'on a, connu un mouvement sur les obligations. Alors, pour les particuliers, c'est... en fait, un particulier, il investit sur les marchés de taux, principalement à travers des supports qui ne subissent pas le risque de marché. Donc, c'est quoi? C'est le livret A où vous avez un taux qui vous est annoncé, c'est le plan d'épargne logement, où vous avez un taux qui est garanti pendant toute la durée du produit, vous avez le fonds en euros, où on vous donne un taux annuel, mais donc l'impact de ce qui se passe sur les marchés obligataires...
C'est pas comme le CAC, quoi.
Voilà, en particulier, on le voit pas, et pour tout vous dire, je trouve ça très bien. Et moi, dans la recommandation qu'on donne chez Marché Gagnant sur les taux, c'est plutôt d'aller sur ce genre de produit que d'aller sur des SICAV obligataires, pour une raison simple, c'est que le marché obligataire est un marché qui est très compliqué. Déjà, l'idée de base est assez tordue, puisque l'idée de base...
Quand ça monte, ça descend, voilà. Quand ça descend,
voilà.
Ça monte.
Voilà, l'idée de base, elle est quand même là, on l'a fait en blaguant tous les deux parce qu'on connaît le truc, mais pour tous ceux qui ne savent pas, puisqu'on fait de la pédagogie, c'est que l'évolution d'une obligation à taux fixe est inverse au mouvement du taux d'intérêt. Bref, quand les taux montent, les cours des obligations baissent, et quand les taux baissent, les taux montent. Donc en fait, on a vécu 40 ans de baisse des taux, et puis là, on a dû toucher un point bas sur les marchés de taux à moins 0,50 sur le 10 ans français. On est monté à 2,5. Donc ça veut dire qu'on a pris 300 points de base sur les taux. Alors c'est pas la première fois de notre vie qu'on prend 300 points de base, mais quand vous prenez 300 points de base en passant de 7 à 10, économiquement, mathématiquement, ça fait pas tout à fait le même impact que quand vous passez de 0 à 3. Ça fait
d'accord.
Beaucoup, beaucoup plus mal.
Bon, mais ça concerne l'obligataire. Et visiblement, Thierry, il nous dit krach boursier. Bon, c'est pas vraiment un krach d'abord.
Alors, on a...
Une correction.
On a, alors, voilà, mais les mots qu'il utilise sont assez intéressants. On sent qu'en tout cas, nous ne sommes pas dans une situation qui est une situation normale. Et je le dis de manière très simple, quand on a un mois de septembre qui est assez dur avec de grosses séquences où c'est baisse sur baisse et où grosso modo quasiment sur 10 séances de suite si vous trouvez deux hausses et que c'est jour de fête. Et puis quand on a en début du mois d'octobre une journée où on progresse à 4% à la Bourse de Paris, moi j'entends ceux qui disent UKD, UKDA, on est reparti, c'est un nouveau trimestre. Quand on prend 4% dans une journée sur un marché, c'est que le marché, il est pas très sain. Donc, après, quelles sont les valeurs à mettre sous surveillance à racheter en cas de capitulation? Donc, la capitulation, on n'y est pas, à mon avis. On n'est pas bien, mais on est très loin de la capitulation. On doit perdre à peu près 20% depuis le début de l'année.
Un peu moins, je crois.
On s'inquiètera quand on sera à moins 30 ou plus. Ensuite, est-ce que c'est le bon réflexe de se dire il y a des boîtes qui vont se prendre des tôles, il faut y aller? Je me suis amusé à regarder le SBF 120 pour regarder depuis le début de l'année. Bon, la plus belle tôle du SBF 120 depuis le début de l'année, on la connaît bien parce qu'on l'a dans le portefeuille des marchés gagnants, c'est Orpea, 90%.
Oui, mais enfin bon, ça c'était...
Non mais, pour autant, on se dit 90%. Ouais. Et ça, vous rappelez-vous, les bancaires à l'époque, 2008, où on se disait ça a tellement baissé qu'on va racheter. Rappelez-vous Orange, rappelez-vous EDF. Tout ça, on a toujours vu des pics et puis on était toujours en train de se rappeler les pics. Moi, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Donc, je regarde les noms. Je donne Orpea, Atos, Valvena, Elior, Forestia, Corian. Moi, je ne crois pas que on doive gérer un investissement boursier, en tout cas selon la méthode qu'on défend, en regardant les tôles et en se disant tiens ça va être les bonnes opérations, parce que en fait on va tenter des coups, donc ça impose de regarder les cours beaucoup plus souvent, d'être beaucoup plus actif, etc. ce qui est pas ce qu'on défend. Donc moi je pense que il faut garder une approche traditionnelle. En tout cas je suis sûr d'un truc, c'est qu'on n'est pas encore au niveau du crack et sur les actions on n'est pas du tout à la capitulation.
Voilà Thierry, quelques éléments de réflexion autour de votre question. Tiens, question d'Alice. Quid des résultats du portefeuille marché gagnant au mois de septembre?
Mauvais.
D'accord, merci.
Non mais, mauvais. Alors, très intéressant. Par contre, il me faut chausser mes lunettes parce que mes tableaux sont écrits tout petits. Sur le mois de septembre, le portefeuille, on fait moins 6,85 quand le CAC 40 fait sur le mois moins 5,92. On se dit un point d'écart. Il n'y a pas de cata.
Non.
D'autant que si vous voulez, on peut regarder les performances sur plusieurs périodes. Donc depuis le début de l'année, donc on est un peu moins bon en septembre. Depuis le début de l'année, nous on perd 14% quand l'indice à fin septembre était à moins 19. Donc on fait mieux que l'indice.
Ouais.
Bon, on perd 14% quand même.
Mais bon, ouais, bien sûr,
mais on fait quand même mieux que l'indice. Et puis si on regarde depuis l'origine, on rappelle qu'on a lancé ça en début d'année 2021. Bah, depuis le début de l'origine, en deux ans, depuis juin 2021, le CAC il progresse de combien? 3,9%. Que dalle.
Et nous,
19,4%.
Ah, c'est mieux.
Donc beaucoup mieux. Pour autant, pourquoi je dis que la performance, elle est mauvaise? La performance, elle est mauvaise parce qu'en réalité, pour diverses raisons qu'on expliquera sur un marché gagnant, on ne va pas revenir trop là-dessus, mais aujourd'hui, nous sommes faiblement exposés. Nous sommes faiblement exposés puisqu'on a environ 23% de cash dans le portefeuille. Et donc, quand vous avez 23% de cash et que vous faites un peu moins que l'indice, ça veut donc dire que votre partie réellement investie, elle a fait beaucoup moins que l'indice. Alors je m'amuse à regarder comme ça juste le truc.
Beaucoup de gérants ont plutôt augmenté le cash dans la sélection de BFM Patrimoine, par exemple. Je crois qu'on est à 15% de cash.
Ouais, alors moi en fait, je vais vous dire, le cash, je le subis totalement. Je le subis totalement pour un truc tout bête, c'est que je pars du principe, dans la méthodologie de marché gagnant, on l'a vu tout à l'heure dans la chronique, on dit, la première question à se poser, c'est le poids des actions qu'on met dans son portefeuille global. Et en fait, ce poids des actions, je ne l'ai pas dit, mais en pratique, je le suis. Donc, on fait régulièrement des sondages sur marché gagnant, et on voit que, vu la perception des Français, ils peuvent mettre, dans leur investissement en moyen long terme, 25% d'actions. C'est-à-dire, il y a 75% de sans risque et 25% d'actions. Que se passe-t-il en 2021 ? Avec le portefeuille, où, on rappelle, vous avez tiré les valeurs au sort à l'origine. Eh bien, la première année, on fait un carton. On fait un carton. Et donc,
parce que j'avais eu la main très heureuse.
Exactement. Mais non, la première année, quand vous avez une bourse de Paris qui progresse de 28%, nous, on fait 39%. Donc on fait 10 points de plus. Sauf que mon 25% d'origine, en fin d'année, il n'est plus à 25%. Donc qu'est-ce qu'on a fait l'an dernier au mois de décembre? On a sorti Bell, on a sorti Clépierre et on a baissé notre niveau de liquidité pour peu ou prou revenir au niveau des 25%. Et c'est pour ça. C'est la pure application de cette règle mathématique qui fait qu'aujourd'hui on a du cash. Donc je regarde mon portefeuille. Et tout à l'heure, on vantait la logique de la diversification en disant c'est important de diversifier. Mais il faut vérifier, quand on diversifie, que ça a bien une fonction diversifiante. Or, il y a un truc qui est assez rigolo ce mois-ci, c'est qu'on a 10 positions, et dans les 10 positions, il y en a seulement 3 qui font mieux que le CAC 40. Alors, il y en a une qui est positive, c'est Pernod Ricard. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, on a une bonne nouvelle sur le mois de septembre sur Pernod Ricard, qui est que début septembre, ils ont publié leurs résultats. C'était bon. Donc la bourse n'est pas du tout emballée. Ça n'a pas été salué par une flambée des cours de bourse. Mais moi, je suis toujours rassuré quand on a...
Oui, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas trop de nervosité, quoi.
Voilà, on se dit qu'il n'y a pas trop de nervosité. Et puis on va surtout rappeler quelque chose. C'est le cours d'une action, c'est quoi? Le cours d'une action, je vais vous le présenter de manière très simple. C'est le résultat de l'entreprise multiplié par la cote d'amour de l'entreprise. La cote d'amour, elle peut varier en fonction de plein... Donc, ce que dans le jargon, on appelle le PER, c'est-à-dire le ratio cours-bénéfice. Mais moi, je présente ça comme étant une cote d'amour. Donc, ça peut varier en fonction de plein d'éléments. Des éléments de liquidité. Genre, il y a beaucoup d'argent qui vient sur le marché, donc ça va améliorer la cote d'amour. Des éléments de psychologie. On va préférer tel secteur à tel autre, donc ça va baisser la cote d'amour. Quand on investit à long terme, la cote d'amour, on ne sait pas trop comment elle va bouger. En revanche, si vous savez que les bénéfices augmentent, ben vous savez qu'au moins, vous avez ce soutien-là pour le coup. Mmh. Donc, les chiffres de Pernod sont bons et légère hausse de Pernod. Après, on a deux boîtes qui sont... Après, on a deux boîtes qui sont à moins 4 sur la période. Donc, un tout petit peu mieux que le CAC 40. C'est Christian Dior et c'est Eramet. Et puis après, on a des choses qui souffrent beaucoup. Elten, service informatique, moins 7. Crédit Agricole, moins 9. Orange, moins 9. Saint-Gobain, moins 8. Veolia, moins 11. Donc, on souffre. D'accord. On souffre énormément.
Mais... Ouais. Ouais, il y a quand même des secteurs sur lesquels on réfléchit, la santé notamment. Qu'est-ce que...
Ben, la santé, alors pour tout vous dire, on réfléchit. Moi, aujourd'hui, très clairement, c'est le truc qui est assez fun, c'est qu'on a un point haut de notre portefeuille le 7 juin. Mais on en a déjà parlé il y a environ 15 jours. Depuis le 7 juin, on dérape complètement. C'est-à-dire que depuis le 7 juin, grosso modo, on perd 17% quand le CAC en perd 12%. Donc, on avait continuer notre avance tout au long du premier semestre 2022.
Sauf depuis le mois de juin.
Et là, on décroche. Et si vous regardez les choses depuis début juin, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder à date. En fait, depuis juin, vous avez, le 7 juin, vous avez Christian Dior qui progresse de 1%, vous avez Pernod Ricard qui progresse de 4%. Donc là, on voit le retour des valeurs de croissance, le retour du luxe, qui avait été en très grande difficulté. Et puis, en revanche, vous avez des pains formidables. Vous avez CGG, moins 40. Vous avez Saint-Gobain, moins 30. Vous avez Eramet, moins 41. Et là, vous voyez tout ce qui, quelque part, est lié au cycle et à l'activité économique. Donc, on voit l'environnement qui est en train de changer. Donc, la santé, on réfléchit. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Jusqu'à présent, on traite le débat sous l'angle de valeur. Est-ce qu'il faut et si l'or, Sanofi? Je pense qu'il va falloir qu'on traite aussi le débat par angle de typologie de valeur. Autrement dit, est-ce qu'on veut chercher des valeurs de croissance ou est-ce qu'on veut aller chercher des valeurs pépères?
Voilà, Alice, une réponse très complète sur ce portefeuille marché gagnant. Question de Mélanie, qui a entendu dire que le taux du livret A ne serait pas revu au 1er novembre, et elle se demande ce qu'il en est du livret d'épargne populaire.
J'ai une très mauvaise nouvelle, Mélanie, mais ce qui va me permettre de m'énerver, il ne sera pas touché au 1er novembre. Et pourquoi je dis que ça va me permettre de m'énerver? En fait, les textes aujourd'hui tels qu'ils sont écrits fait que le cas du LEP, donc le livret d'épargne populaire, qui rapporte aujourd'hui 4,6%, est lié dans l'hypothèse d'une évolution dérogatoire. On rappelle qu'il y a deux évolutions par an, une au mois de février et une au mois d'août. Donc ça, c'est automatique. Et le dérogatoire, c'est au mois de mai et au mois de novembre. Et donc, les textes tels qu'ils sont faits aujourd'hui, quelque part, disent que les deux sont liés. Et ça, ça...
Donc si on ne bouge pas le livret A, on ne bouge pas le LEP.
Voilà. Et alors ça, je vais vous dire, c'est le témoignage de dysfonctionnement majeur sur la façon dont on fait de la politique dans ce pays. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, le taux du LEP, il est lié au taux du livret A. Donc, c'est normal qu'on dise si on bouge l'un, on bouge l'autre, et inversement.
Okay.
Bon. Donc ça, c'était avant. Sauf qu'un beau jour, on s'est dit, oh, le livret A, ça commence à nous embêter de l'indexer par rapport à l'inflation, donc on va commencer à changer les règles. Et puis, ah oui, mais on voit bien les problèmes que ça pose par rapport aux gens qui sont les plus pauvres, donc on va essayer d'encourager le LEP. Et on a commencé à dire, mais finalement, le taux du LEP, il reste lié au taux du livret A, mais pas toujours. Pas toujours parce qu'on va garder un lien plus fort avec l'inflation sur le LEP que ce que l'on a sur le livret. Sauf qu'on a mal écrit les textes et qu'on n'est pas allé au bout de la démarche. Ça me permet de rajouter quelque chose. Si on dit que le LEP a un lien plus fort avec l'inflation, et vous entendez le pouvoir public, vous entendez le ministre de l'économie et des finances, vous entendez le gouverneur de la Banque de France dire le LEP protège les épargnants de l'inflation. Eh bien, pardon, mais je voudrais qu'on arrête d'annoncer des bêtises et des choses qui sont aujourd'hui totalement mensongères. Pourquoi ? Si on veut faire un peu de pédagogie, le rendement qui compte pour un épargnant, c'est pas le rendement facial, c'est pas le taux qui est affiché, c'est le rendement net. Comment va-t-on calculer le rendement net ? Eh bien, on va calculer combien touche un individu sur une période. Et on va regarder l'inflation sur cette même période. Je vais vous faire l'exercice suivant. L'inflation aujourd'hui, le dernier chiffre qui a été publié par l'INSEE, pour le mois de septembre, c'est 5,6%. Si je regarde ce qu'a touché un détenteur de LEP au cours des 12 derniers mois, donc le chiffre que je dois comparer à ce 5,6%, j'ai 2 mois à 4,60%. J'ai 6 mois à 2,20 et j'ai 4 mois à 1%. Bref, le détenteur d'un LEP, au cours des 12 derniers mois, a touché 2,2%.
Donc on est loin,
face à une inflation de 5,6%.
Donc il en manque.
Jamais le pouvoir d'achat du LEP a été aussi mauvais que ce mois-ci. Et en fait, le LEP est passé en taux réel négatif en mars 2021. Et c'est pour ça que ça m'insupporte d'entendre le ministre et le gouverneur dire des choses qui sont très clairement des balivernes.
Surtout que c'est un livret à l'accès très réglementé. Donc
entre nous, il faudrait changer son taux plus souvent.
Bon. Jean-François Filiatre et Marché Gagnant, dans un instant, c'est 60 minutes business. Quel est le programme ?
Bonjour Cédric, bonjour à tous. À la une de 60 minutes business, aujourd'hui, même dans le pire des scénarios, on passera l'hiver. C'est en tout cas le nouvel appel d'Emmanuel Macron, alors que le gouvernement va déployer aujourd'hui son plan de sobriété avec des économies réalisées à tous les étages. On vous détaillera ça. Le baromètre Odoxa nous dévoile aujourd'hui que 53% des Français sont favorables à la réforme de l'assurance chômage et une autre réforme, elle, qui crispe également les tensions, la réforme des retraites. Aujourd'hui, le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco doit trancher pour la revalorisation des pensions des retraités du privé. Ça concerne 13 millions de personnes. Ce sera notre invité dans 60 minutes business.
Thomas Schnell et 60 minutes business dans un instant. Nous, on se retrouve demain matin, 10h. Le marché parisien a opté pour la baisse. -0,24, 5971 points. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.